Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Nouveaux projets et relations. Au programme, les géants du web et les barrières invisibles. Bonne écoute.
Les géants du web, un texte de Catherine Dorion, paru dans l'édition automne-hiver 2022 du magazine Nouveau Projet. Qui nous protégera de la voracité des GAFAM? En 2018, je faisais mon premier discours à l'Assemblée nationale en tant que député. J'y parlais de solitude, de manque de temps pour être ensemble, de pression productiviste, de tristesse face à ce que nos gouvernements nous proposent comme seul projet de société, avoir 100 $ de plus dans nos poches. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vision commune, qu'on n'a pas été porté par un désir collectif. Des petits bouts de petits projets ici et là, des luttes séparées, des listes d'épiceries électorales, des débats polarisés, du monde qui ne se reconnaissent plus entre eux et elles. Si s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'une l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction, peut-être que le Québec ne s'aime plus. Peut-être qu'il est dans un rapport à lui-même proche de celui qu'on a quand on est en dépression, cynique et désintéressé. On est dans quoi collectivement en ce moment? C'est quoi le chapitre de notre histoire? On sait qu'il y a eu de grandes luttes sociales, qu'il y a eu des époques joyeuses et libératrices, puis il y a eu des gouvernements de droite, des coupes et des serrages de ceinture, et pendant que le 1% prenait de la bédaine et de l'assurance, l'anxiété montait partout ailleurs. Il y a eu les alarmes qui se sont mises à sonner. La crise du climat, celle du logement, le manque de sens, la santé mentale qui en arrache. Des industriels ont fait mentir des études pour pouvoir continuer à polluer. Des opinionneux opinionneuses grassement payées nous ont dit, année après année, que les services publics à la poubelle, les syndicats à la poubelle, les artistes à la poubelle, l'environnement à la poubelle. Jusqu'à cette chose qui nous est arrivée récemment et qui est en train de nous transformer profondément à notre insu. Cette chose sur laquelle on a complètement perdu le contrôle et qui est en train de foutre en l'air à peu près tout ce qui nous est cher comme humain-humaine. Je parle de ce que Shoshana Zuboff, sociologue et professeure émérite à la Harvard Business School, a appelé le capitalisme de surveillance. L'ouvrage « L'âge du capitalisme de surveillance » 2018, qui résulte de plus de 10 ans de recherche, est aujourd'hui considéré comme une lecture incontournable, à droite comme à gauche, et a été salué partout à travers le monde. Le capitalisme de surveillance est une nouvelle forme de marché qui revendique l'expérience humaine privée comme matière première dont il se sert dans des opérations secrètes d'extraction, de production et de vente. L'économie de la surveillance est devenue l'expression dominante du capitalisme dans l'ère numérique. Elle a pris racine et a prospéré dans les 20 premières années du siècle numérique sans opposition réelle de la part de la loi et des institutions démocratiques. En d'autres mots, il existe un marché, à peu près pas réglementé, où se sont jetées avec passion des compagnies gigantesques attirées par le gain extraordinaire que représente l'accaparement de ce nouvel or noir, notre temps d'attention. Mais ce temps de cerveau disponible, qui est happé par nos machines bien plus qu'on le voudrait, dans un monde qui nous y incite, voire nous y oblige de plus en plus, ce n'est pas du temps réellement disponible. Ce temps passé sur nos écrans est volé à autre chose. À la recherche du temps perdu. Il était où ce temps avant? Il appartenait à qui? Ce temps-là appartenait à la liberté. Ce temps-là était libre. Et c'est dans ce temps libre que se crée, se transmet et s'enrichit la culture humaine. C'est dans ce temps libre que naissent la chanson, la danse, les histoires et les confidences. Que prennent place le soin et l'amour qu'on se donne. Quand la souffrance des autres devient la nôtre, quand on est nombreux, nombreuses à supporter plusieurs souffrances, on définit une culture. Une culture de ce qui est bon pour nous et de ce qui ne l'est pas. Une culture de ce qu'on veut sauver parce que ça nourrit le bonheur de la collectivité et de ce qu'on veut combattre parce que ça pourrit le bonheur de la collectivité. Ce temps-là est hacké par les grandes entreprises numériques sans souci de ce qu'on désire vraiment. Avec l'aide des neurosciences, elles ont développé des applications capables de contourner notre libre arbitre. Ça s'appelle la captologie ou le design du comportement. Vous sentez-vous dans un roman d'Orwell? Et de faire appel à nos pulsions, à nos dépendances, de sorte qu'en demeurant toujours branché, on transmet plus d'informations personnelles. Parce que c'est ça qui fait la pièce, parce que c'est ça le nouveau pétrole. Ou pour ceux et celles qui ont lu Dune, parce que c'est ça l'épice. Qui ne connaît pas des gens qui voudraient consacrer moins de temps à leur machine et qui s'en déclarent incapables? Qui disent que c'est un combat de tous les jours depuis des années? En fait, je devrais y aller à l'envers. Qui connaît quelqu'un, quelqu'une, qui ne veut pas consacrer moins de temps à ces machines? Les grandes théories économiques que nos gouvernements embrassent depuis des décennies sont basées sur l'idée du choix rationnel. Or, il va falloir se le dire, ce n'est pas rationnellement qu'on donne notre temps et nos infos personnelles aux Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, GAFAM, de ce monde, ou à des plateformes comme Netflix. Tôt ou tard, il va falloir se regarder en face comme société et constater humblement que notre temps est exploité par la force psychologique. Vous écoutez « Les géants du web », un texte de Catherine Dorion paru dans l'édition automne-hiver 2022 du magazine Nouveau Projet. Le musée des horreurs du capitalisme numérique. De nombreuses voix s'élèvent pourtant aujourd'hui un peu partout pour nommer l'importance d'accompagner et d'encadrer le développement d'un Internet sécuritaire qui nourrisse l'esprit humain plutôt que de la servir, qui permettent d'unir les gens plutôt que de les isoler dans des espaces virtuels addictifs, qui servent la démocratie plutôt que de l'affaiblir. Bref, un Internet qui soit sain plutôt que destructeur pour la société et pour l'individu. On a commencé à se poser ces questions il y a longtemps déjà, quand on a appris que Google enregistre tout ce qu'on tape dans son moteur de recherche, qu'il scanne aussi le contenu de nos messages privés sur Gmail, qu'il consigne nos déplacements, nos allers-retours entre le bureau et la maison, dans quel bar on va et à quelle heure. On a appris que Facebook mémorise nos likes et fait des portraits très détaillés de nos goûts, de ce qui nous déprime et de ce qui nous met de bonne humeur. On a su qu'il n'enregistre pas juste nos actions sur Facebook, mais nous suit et nous épie sur les autres sites qu'on visite. Puis on a appris, avec le lanceur d'alerte Edward Snowden, que nos informations personnelles se ramassent entre les mains des services secrets américains qui peuvent fouiller librement dans cette mer d'informations sans véritable chien de garde capable de protéger la démocratie et les droits de la personne contre leurs abus, malheureusement monnaie courante dans l'histoire. Il y a eu ensuite le scandale de Cambridge Analytica, à qui Facebook a vendu les portraits psychologiques de dizaines de millions d'utilisateurs d'utilisatrices dans le cadre des campagnes électorales de Trump, du Brexit et d'autres. On a ciblé des types de personnalités particulièrement susceptibles d'être influencées et on les a bombardés de contenus politiques hautement personnalisés. Une arme psychologique d'une efficacité redoutable. On a su encore qu'avec Google Street View, ça, ce sont les petites autos de Google qui se promènent dans le monde entier pour donner une vue grandeur nature de chaque raccoin. Google ne fait pas que prendre des photos. Il capte une foule d'informations personnelles, à même nos transmissions Wi-Fi, un vol de données, carrément. Ça a été le scandale WiSpy. Puis, le dernier en lice, les Facebook Files en septembre 2021, où on apprenait, entre autres, que la dépendance à Instagram, si lucrative pour l'entreprise, endommage la santé mentale de millions d'adolescents et surtout d'adolescentes au vu et au su de la compagnie. L'histoire n'est pas prête de s'arrêter et TikTok ne perd rien pour attendre. Ces entreprises peuvent bien nous répéter qu'elles s'affairent à protéger nos données personnelles. La vérité, c'est qu'aucune d'elles n'y a intérêt, parce que les informations qui concernent la vie privée des gens, de leur rythme cardiaque à leurs obsessions secrètes, en passant par ce qu'ils ont acheté à telle heure dans tel magasin, la musique qu'ils écoutent quand ils ressentent telle émotion, tout ça, c'est leur matière première. C'est précisément de ça qu'elles tirent tout leur pouvoir. À moins d'opter pour un suicide institutionnel, il y a bien peu de choses que les GAFAM puissent dire ou faire pour assurer le respect de la vie privée de l'utilisateur-utilisatrice. Quand on entend ça, il faut rire, comme quand on voit les pubs d'éco-blanchiment de l'industrie pétrolière avec une petite musique et un petit vent dans les feuilles d'un arbre au milieu d'une belle forêt. Et attention, ce n'est pas une question de technophobie ou de technophilie. Ça n'a rien à voir. La radioactivité peut guérir des cancers, tout comme elle peut enserrer le monde entier pendant des décennies dans la crainte de la guerre nucléaire. Le problème, ce n'est pas la technologie, c'est le capitalisme. Et comme les grandes puissances coloniales se faisaient autrefois compétition sans qu'aucune autorité contraignante vienne les entraver dans leur course folle pour l'accaparement des ressources naturelles, les grandes puissances numériques se coltaillent aujourd'hui sur les terres de nos cerveaux pour être celles qui possèdent le plus de données sur nous, le plus de possibilités de nous influencer, d'influencer la marche du monde et, par le fait même, de nous sortir de notre libre arbitre et de notre vie sensible, tous, toutes, autant que nous sommes. Le vivre ensemble et la culture. Avec les algorithmes, on a appris que c'est en poussant sur les émotions des gens et sur leurs préjugés qu'on peut le mieux les garder scotchés à leurs écrans. En les poussant au maximum. Ça, c'est l'inverse de l'équilibre, l'inverse de ce que te recommanderait un ou une psy. Tout le monde a déjà ressenti le stress, le mal-être qui surgit sans que l'on comprenne pourquoi, avant de réaliser « Ah, je viens de passer 20 minutes là-dessus à faire je ne sais même pas quoi ». Pression, négativité, comparaison et compétition, clivage, haine. 20 minutes de pensée à qui? Ça a un profond effet sur notre psychologie, mais aussi sur nos relations. Ces heures perdues à tourner en rond dans les labyrinthes de nos notifications, ces heures sont enlevées à ceux et celles qu'on aime. Elles sont enlevées au temps qu'on passerait à être connecté avec soi-même pour mieux se lier avec le monde qui nous entoure. Elles sont enlevées à nos quartiers, aux luttes essentielles qu'on a à mener ensemble pour sortir de la crise climatique et humaine dans laquelle on se trouve. Elles sont enlevées aux soins qu'on porterait peut-être à notre prochaine et qui pourraient faire en sorte que les urgences psychiatriques et les listes d'attente des psychologues ne débordent pas autant. Ces heures disponibles sont enlevées aux enfants, aux adolescents-adolescentes, aux aînés. Elles sont enlevées à la transmission, à la passation, à tout cet héritage que le Québec porte et qui ne se situe nulle part ailleurs que dans le cœur. Bref, elles sont enlevées à nos liens, au territoire commun qu'on appelle culture et qui était jusqu'à récemment épargné par les lois de la propriété privée et des compagnies. À tout ce qui fait qu'on forme, ou pas, une communauté, une société, un peuple, plutôt qu'une suite de petits pixels bien délimités, en petits groupes séparés les uns des autres, une foule d'individus atomisés en train de perdre le savoir-faire d'être ensemble dans une même réalité. Ces heures sont la matière première des GAFAM, mais elles ne leur appartiennent pas. Elles sont seulement prises en otage par celles-ci. Et il va falloir penser à se défendre. Personne ne nous protège. Si l'intelligence artificielle pouvait servir le bien commun plutôt que la soif de quelques-uns, quelques-unes, la technologie du troisième millénaire ferait des merveilles. Mais pour que ça se produise, il faut que nos gouvernements encadrent, légifèrent, mettent au pas les entreprises extractivistes de données personnelles comme ils l'ont fait, ou tentent de le faire, pour d'autres industries. Si eux ne le font pas, qui le fera? Le gouvernement du Québec a parlé de lutte contre la cyberdépendance. Or, on est aujourd'hui, à quelques exceptions près, tous, toutes, plus ou moins dans un rapport de dépendance à la technologie. Ça brise des couples. Ça brise des relations parents-enfants. Ça brise des relations professeurs-élèves. Ça magane les espaces publics comme les espaces intimes. Ce n'est pas un enjeu individuel, comme le suggère l'approche gouvernementale. Ce ne sont pas les individus qu'il faut gérer ou culpabiliser. L'enjeu en est un de société et il va falloir y répondre autrement qu'en prodiguant des petits conseils aux gens sur la façon de combattre leur cyberdépendance. Il va falloir une réponse politique. La population serait prête pour ça. Plusieurs sondages ont été réalisés aux États-Unis et au Canada. Les résultats sont étonnants. La majorité des citoyens et citoyennes croient que les géants du Web nuisent à leur santé. Mais pendant ce temps, le gouvernement de François Legault légalise Uber au détriment des chauffeurs-chauffeuses de taxi, octroie un contrat de 10,5 millions de dollars à Amazon Web Services pour des ressources d'infos nuagiques destinées à l'État, dézone une terre agricole à Beauharnois pour y implanter un centre de données appartenant à Google, et ce, malgré l'objection nette de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Au fédéral, ce n'est pas beaucoup mieux. Je pourrais faire une longue liste, mais vous avez compris. Nos gouvernements ne nous protègent pas. Ils nous jettent plus avant, dans la gueule du loup. En conclusion de son ouvrage, Shoshana Zuboff écrit « Le capitalisme de surveillance est une créature du 21e siècle qui ne peut être domptée que par des droits et des lois du 21e siècle qui attendent encore d'être formalisés. » J'aimerais que nos gouvernements soient quelque part dans ces questions-là, qu'ils y pensent, s'en inquiètent, cherchent, pour notre santé mentale, pour le vivre ensemble, c'est-à-dire pour la santé de notre culture, pour que le Québec, culturellement, sorte de sa dépression. On a besoin de retrouver un socle commun, des lieux publics communs, des rêves et des désirs communs, un projet de société commun. Et pour ça, il faudra vivre dans le même monde et cesser de n'offrir à nos proches et à notre société qu'une présence en pointillé. Il faudra retrouver ce temps, ce soin, cette présence et toutes ces choses sensibles qui vont nous donner envie de regarder à nouveau, tous et toutes ensemble, dans la même direction. C'était « Les géants du Web », un texte de Catherine Dorion, paru dans l'édition automne-hiver 2022 du magazine « Nouveaux projets ». Les barrières invisibles, un texte de Maya Ombazic paru dans la revue Relations dans le numéro 818, automne 2022. L'auteur, écrivaine, a entre autres publié le roman Dans les murs. Dans le texte suivant, elle nous présente des personnes dont le vécu permet de penser à nouveaux frais la notion de frontière. Carlos, un musicien colombien, raconte sa traversée irrégulière de la frontière canado-américaine avec les yeux d'un non-voyant. Si ce n'était de sa situation socio-économique compliquée et de la violence qui la déchire depuis des décennies, la Colombie serait un paradis sur Terre. L'histoire et la culture y sont d'une grande richesse, la musique et la gastronomie marquées par des influences diverses, les gens chaleureux, le climat agréable et les paysages magnifiques. Mais là où il y a de la lumière, il y a aussi beaucoup d'ombre, comme si l'un n'allait pas sans l'autre. Dans ce pays, les personnes les plus vulnérables n'ont trop souvent même pas l'occasion de décrier l'injustice qui s'abat sur elles. Un peu comme ce poupon né prématurément et à qui on a oublié, par simple négligence du personnel de la maternité, de couvrir les yeux, ce qui finira par lui brûler la rétine et par faire de lui un aveugle non pas de naissance, mais de malchance. Ce poupon, c'était Carlos. Il n'était qu'une petite crevette de 6 mois à qui le monde se présentait sous forme de flash quand le rideau de l'obscurité tomba à jamais sur sa vie. Selon ses propres dires, c'est peut-être mieux comme ça, car s'il avait vu la lumière, il en aurait sans doute été nostalgique toute sa vie. Ne l'ayant jamais perçue, elle peut difficilement lui manquer. Mais est-ce possible de regretter ce que l'on ne connaît pas? Seul Platon, le grec le plus éclairé, aurait pu poser aussi étrange question. Pour lui, nous portons toutes les connaissances en nous, il suffit de s'en ressouvenir. Mais pour cela, il faut convertir le regard, laisser les apparences et le monde extérieur entre les mains de la doxa et chercher la lumière, la connaissance et la vérité à l'intérieur de nous-mêmes. L'affaire semble simple, mais en réalité, elle ne l'est pas. À moins d'être un philosophe né comme Carlos. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Carlos ne voudrait surtout pas voir, maintenant qu'il est arrivé au mi-temps de sa vie et qu'il a compris tant de choses sur sa condition qu'il considère comme un privilège. Comme Platon, il pense lui aussi que nous sommes porteurs de toutes les connaissances et que même lorsqu'on n'a jamais contemplé la lumière du jour avec nos propres yeux, elle est en nous. Un autre regard sur la frontière. Depuis son enfance, la persévérance ou la cabeza dura, la tête dure, est le trait le plus marquant de la personnalité de Carlos. Au cours de sa jeunesse, le jeune mélomane surdoué se butait constamment aux préjugés. Même à la renommée Universidad del Valle, à Cali, personne ne voulait lui enseigner le piano parce que c'était compliqué d'enseigner la musique à des gens comme lui. Cela motiva en grande partie sa famille à tenter sa chance au pays de l'oncle Sam. Connaître un pays par tous les autres sens à part la vue, c'est ressentir, sans filtre, la vibration du lieu à son état le plus pur. Carlos ne mettra donc pas beaucoup de temps à se rendre compte que les États-Unis ne l'intéressent pas. Ni le climat de West Palm Beach, en Floride, ni la présence d'une grande communauté d'Hispano-Américains qui parlent sa langue et partagent une certaine culture commune n'arrivent à le convaincre de rester. Il ira au pays de l'hiver, là où on lui a dit que la lumière était éclatante 6 mois par année. C'est ce qui l'appelait. Il faut déjà un courage hors norme pour se décider à traverser clandestinement, à ses risques et périls, la frontière canado-américaine afin de demander l'asile. Mais comment qualifier ce courage lorsque cette décision est prise par une personne non-voyante? En compagnie de son chien et de 2 autres comparses nés du mauvais côté de l'histoire, Carlos tentera sa chance une première fois près de la colle. Ils seront découverts par les gardiens de la loi du côté américain, ceux qui ressemblent, par leur vibration, aux chiens enragés, assure Carlos. Les malheureux clandestins seront remis aux autorités américaines puisque c'était leur dernière destination et seront jugés puis finalement relâchés par les juges de l'immigration qui leur suggéreront de retenter la chance au pays de Disneyland. Car selon les magistrats, tout est possible. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Oui, tout est possible, pensa Carlos, comme tenter sa chance une 2e fois pour passer du côté canadien, afin de vivre au pays de la poudrerie et de l'éternel éclat blanc. C'est exactement ce qu'il fera. 2 tours à nouveau, direction le nord magnétique pour la 2e fois. Un désir renforcé par la meilleure vibration qu'il perçoit au contact des gardiens de la loi du côté canadien. Pas des chiens enragés, seulement des humains qui tentent de servir avec dignité d'autres humains en détresse. Je suis têtu, je le sais, mais j'ai basé mes choix de vie sur des considérations rationnelles auxquelles d'autres ne pensent pas, comme le transport en commun. Aux États-Unis, les non-voyants dépendent des autres pour se déplacer. Au pays de la blancheur éternelle, il m'est possible de prendre seul le bus, de sortir au milieu d'une rue silencieuse ralentie par une tempête de neige et de sentir le bonheur de mon chien lorsqu'il se roule dans la neige. Et ça, ça n'a pas de prix. Ce sont des considérations d'un autre type, mais elles sont vitales. Comme est vitale la première impression. Une fois traversée la frontière canadienne, le plan initial était d'aller en Ontario pour visiter une amie colombienne et rester près d'elle. Mais lorsque Carlos a ressenti pour la première fois les ondes vibratoires de Montréal, il a eu l'impression que la ville l'embrassait, l'enveloppait et l'accueillait, comme si elle était sa 2e mère. Une mère patrie, la vraie. À l'instar de tous les coups de foudre, ce fut immédiat, total, entier, sans équivoque. C'est sans doute ce qui lui fait dire, même des années après, « Vivo enamorado de Montréal, a pesar de todo. » Je ne cesse de tomber amoureux de Montréal, malgré toutes les difficultés. Car des difficultés et des barrières invisibles, il y en a eu et il y en aura toujours, comme celles qu'on dresse régulièrement devant Carlos en réduisant ses possibles aux formulaires et subventions gouvernementales et leurs nombreuses conditions. Aller à gauche plutôt qu'à droite, parce qu'étant limité, c'est là que se trouvent les programmes spécialement conçus pour lui. Aller à tel atelier pour apprendre comment chercher de l'emploi, plutôt que d'en trouver. Aller à telle école de francisation plutôt qu'à une autre, parce que c'est mieux pour lui. Aller dans un groupe pour les non-voyants pour apprendre comment se connecter à ses émotions. Ce qui est le mieux pour moi, c'est de ne pas me mettre toutes ces barrières, parce que, paradoxalement, je les vois partout, ricane, mi-sarcastique, mi-sérieux, celui qui est tout de même reconnaissant d'avoir pu accéder à la citoyenneté canadienne malgré les nombreux obstacles administratifs auxquels il a dû faire face. Le courage de traverser clandestinement la douane canadienne quand on est non-voyant est un exploit en soi. C'est pourquoi, précise-t-il, j'aimerais qu'on me laisse seulement exploiter tous mes possibles. De l'autre côté de la vue. Souvent, on lui demande s'il ne rêve pas de retrouver la vue grâce aux avancées technologiques. Surtout pas. Je ne veux pas voir, moi, je veux ressentir, découvrir le monde par mes autres sens. Selon lui, il a, d'une certaine façon, été choisi pour ressentir le monde différemment. Un jour, une amie lui parle de la célèbre nouvelle de Jorge Luis Borges, El Otro, l'autre, dans laquelle l'aveugle et prolifique écrivain argentin s'imagine rencontrer son double, c'est-à-dire lui-même, mais beaucoup plus jeune. Malgré les conseils de l'aîné, le jeune n'écoute pas. Il faut inévitablement qu'il passe par le même chemin pour apprendre. Tu veux savoir ce que le Carlos d'aujourd'hui dirait au Carlos d'hier? Il lui dirait ceci. Sois conscient et reconnaissant du cadeau que la vie t'a fait de ne pas voir. Les yeux, c'est un cadeau empoisonné, parce que les gens qui voient regardent seulement la surface des êtres et des choses. Voir, c'est donc ne pas voir l'essentiel dans un monde rempli de frontières invisibles. Or, il y a tant de choses à ressentir dell'otro lado della vista, de l'autre côté de la vue. À la question s'il avait déjà entendu parler du soleil intelligible de Platon, le surdoué musicien répond « Non, mais je sens que c'est un soleil métaphorique, celui qui m'est donné à voir au quotidien. » C'est aussi le plus vrai. C'était « Les barrières invisibles », un texte de Maya Ombazic paru dans la revue Relations, dans le numéro 812, automne 2022.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.fzvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Luc Mercure à la lecture, Évelyne Séverin et Jean-Sébastien Laliberté à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.